Raphaël, pardon, le président Trump a été immédiatement averti qu'il y avait une fusillade dans une école en Floride et il y a eu quand même réaction de sa part.
Il y a eu réaction très immédiate de sa part via Twitter. On s'en surprendra certainement pas. Le président qui a offert d'abord et avant tout ses pensées et ses prières aux victimes et à leurs proches et a ajouté également qu'aucun enfant, aucun enseignant ou qui que ce soit d'autre ne devrait se sentir en danger dans une école américaine. Il a également ajouté dans un second tweet qu'il avait été en contact avec le gouverneur de l'État, Rick Scott, un républicain et un allié, soit dit en passant, politique du président Trump et qu'ils travaillaient ensemble de près avec les corps policiers. Une fois que tout ça s'est dit, Paul, évidemment, on va tout de suite, en fait, on est déjà tombé dans le débat politique autour du contrôle des armes à feu et soyons très clair, d'emblée, un resserrement législatif, tout au moins au niveau fédéral aux États-Unis, sur les armes à feu, il n'y en aura pas, point à la lettre. C'est aussi simple que ça.
Oui.
Tu te rappelleras, Paul, et tu en as parlé toi-même, en fait, dans le dernier segment avec Patrick, lorsqu'il y avait eu la fusillade à Las Vegas, il y avait été question brièvement de ce qu'on appelait les « bomb stocks ». Est-ce que tu te rappelles de ça?
Oui, m'en
l'équipement.
Très... Oui.
Okay. L'équipement qui est utilisé pour modifier, en fait, renforcer certaines armes à feu, les rendre plus puissantes. Et il y avait été question, dans la foulée de cet attentat-là, là, il faut appeler un chat un chat, c'était un attentat, de peut-être resserrer législativement la loi, justement, évidemment, sur les armes à feu pour venir davantage encadrer, resserrer tout ce qui est bomb stock. Et au fil des semaines, le débat est tout simplement mort au feuilleton et on a complètement arrêté même d'en parler. Je te dirais que si tu arrêtais les gens dans la rue, probablement que dans la grande majorité des cas, on aurait même oublié ce qu'était un bomb stock, alors que pendant les jours qui avaient suivi, on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si on remonte même un petit peu plus loin, et tu l'as fait aussi avec Patrick, à la fusillade de Sandy Hook qui avait eu lieu à la fin de 2012, donc un petit peu plus de 5 ans maintenant. Je me rappelle très bien personnellement, je peux te dire que j'avais donné une entrevue à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, c'était avec Paul Larocque. Il m'avait demandé qu'est-ce qui allait se passer législativement au niveau du contrôle des armes à feu, prenant presque pour acquis qu'évidemment, après une fusillade dans une école primaire aussi atroce que ça, il allait se passer quelque chose et j'avais dit du tac au tac, non, personnellement, je pense qu'il n'y a rien qui va se produire. Il s'était rien produit. On a eu la même chose après Las Vegas, on va avoir la même chose
oui,
après ce qui s'est passé aujourd'hui.
À ce moment-là, c'était Barack Obama
qui
était président. Il était très touché, il avait dit, il faut faire quelque chose, absolument. Puis il y a eu comme une sorte de mobilisation que là, ça y était. Mais il a échoué. Il a échoué carrément dans son bilan à pouvoir changer quoi que ce soit.
Il a échoué et dans le cas du président Trump, évidemment son successeur, il ne risque pas d'y avoir d'échec entre guillemets parce qu'il n'y aura de tentative. Donc, oublie ça. Au final, le Congrès fait les lois aux États-Unis et il n'y a aucun espèce d'appétit politique au Congrès pour faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ajoutons très rapidement là-dessus, Paul, que ce n'est pas simplement, strictement une question partisane. Lorsque Barack Obama avait été en charge, donc, à la présidence à ce moment-là, après Sandy Hook, oui, il avait poussé pour un resserrement, mais c'était son parti, le Parti démocrate, qui contrôlait le Sénat. Et même la majorité démocrate, il avait été absolument incapable de faire passer quoi que ce soit. En fait, je me rappelle très bien que la mesure, parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient été étudiées par le Sénat suite à Sandy Hook, la mesure qui avait obtenu le plus grand nombre de votes au Sénat américain, c'était la seule mesure qui, en fait, venait assouplir et non pas resserrer le contrôle des armes à feu. Donc, ça dit vraiment tout ce que tu as besoin de savoir sur ce débat-là aux États-Unis.
Assez surprenant, le vice-président américain Mike Pence a admis publiquement que l'administration du président aurait pu mieux gérer le scandale Rob Porter.
Oui, on l'écoute très rapidement tout de suite.
As I said, and as the White House has said, I think the White House could have handled this better.
Ben, écoute, Paul, je pense que c'est probablement l'euphémisme de l'année après dire que le Canadien de Montréal aurait pu connaître une meilleure saison. Dire que cette affaire-là aurait pu être mieux gérée par la Maison-Blanche. Écoute, t'as ce qui aurait normalement été une histoire d'un jour qui est devenu un scandale qui s'éternise depuis maintenant une semaine, où tous les membres, tous les plus hauts placés de l'administration américaine sont appelés sur une base quotidienne à se prononcer là-dessus. C'est le cafouillage total. Et de façon très intéressante, un petit peu plus tard dans l'entretien qu'on vient d'entendre avec le vice-président Pence, il a mentionné qu'il avait hâte de travailler avec le chef de cabinet du président, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, pour les mois à venir. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est qu'il y a quelque chose de révélateur, parce que John Kelly, le chef de cabinet, est dans la mire de bien des gens, incluant au sein de l'administration Trump, puisqu'il est vu, à tort ou à raison, comme la personne responsable à la base de tout ce cafouillage-là, d'avoir gardé au sein du personnel de la Maison-Blanche un type accusé par au moins ses deux ex-épouses de violence conjugale et de façon assez remarquable, merci, donc d'avoir gardé ce type-là au sein du personnel. Mais ce que le vice-président Pence semble envoyer comme signal, c'est que tout au moins à court terme, l'emploi de M. Kelly, donc du chef de cabinet, ne serait pas en danger. Mais ça, évidemment, ça ne sera certainement pas suffisant pour mettre fin à cette controverse-là.
Et dernier sujet, mais très important aussi, autre scandale, l'avocat personnel de Donald Trump reconnaît avoir déboursé une somme de 130 000 $ versée à l'actrice porno Stormy Daniels.
Oui, et ça, ce qui est intéressant là-dedans, Paul, c'est que le Wall Street Journal avait été le premier média majeur aux États-Unis à rapporter ça le mois dernier. La Maison-Blanche avait nié, en bloc continu de nier, qu'il y a eu quoi que ce soit d'inapproprié qui s'est produit ou qui se serait produit entre Donald Trump et cette actrice porno Stormy Daniels. On répète qu'à ce moment-là, au moment où il se serait possiblement passé quelque chose, Donald Trump était un citoyen privé, était très loin de la sphère politique, mais c'est un citoyen privé marié avec une épouse qui est présentement la première dame des États-Unis, qui venait tout juste de donner naissance à leur fils Barron, qui évidemment est toujours au sein de la famille présidentielle aujourd'hui. Donc, ça fait évidemment couler beaucoup d'encre. Et le punch, en fait, on en a eu deux aujourd'hui, c'est que là, ce n'est pas simplement un reportage dans un journal. On a la confirmation personnelle de l'avocat de Donald Trump comme quoi il y a vraiment eu paiement de 130 000 $. Et coup de théâtre, Paul, au courant des toutes dernières minutes, la principale intéressée, Stormy Daniels, vient d'annoncer, via l'entremise de son agent, que l'entente de confidentialité qu'elle avait suite, évidemment, à ce paiement-là ne tiendrait plus, selon elle, parce que l'avocat de Donald Trump est sorti publiquement pour en parler. Et donc, elle a annoncé qu'elle était prête à dévoiler son côté de l'histoire.
Dangereux.
En effet, donc, tu peux être sûr et certain qu'aujourd'hui n'était pas la dernière fois qu'on s'en parlait. Par contre, aujourd'hui est une journée spéciale, la Saint-Valentin.
En plus, tant
qu'à parler d'actrice porno, on va parler de Saint-Valentin.
En plus.
Donc, je te la souhaite une bonne à toi et à ta femme.
Très gentil. Et nous allons suivre peut-être dans les prochains jours les révélations de Mme Daniels. Au revoir, Raphaël.
À demain.